Donc nous allons commencer le shiur par Chatbo, comme tous les jeudis soirs. Donc bienvenue à ceux qui ont bravé le froid, d'accord, et qui sont venus à pied, ou à cheval, ou avec un âne. Peu importe, le principal c'est de venir, c'est d'arriver, d'accord. Et puis en attendant nos fidèles retardataires, qu'on aime beaucoup parce qu'ils se font attendre, nous allons quand même commencer le shiur. Donc, vous prenez dans Parshat Bo, page 153. Parshat Bo, page 153. Tout à fait en bas du Chumash. Ushmartem et Hamatzot. Ki be'etzem hayom hazeh hotzeti et tzivotechem me'eretz Mitzrayim. Vous garderez les matzot. C'est-à-dire, vous garderez les matzot à ce qu'elles ne fermentent pas. Car ce jour-là, qui be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, hotzeti et tzivotechem eretz Mitzrayim, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Ushmartem et hayom hazeh, vous garderez ce jour-là, les dorotechem, pour toutes vos générations, chukat olam, une loi éternelle. Donc la Torah nous demande, Ushmartem et Hamatzot, de bien garder les Matzot. D'accord ? Rashi, à ce sujet, nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Ushmartem et Hamatzot ? Tout à fait en bas, vous avez Rashi, Pasuk Yudzayin en bas. Ushmartem et Hamatzot, Shelo Yavou Lide Chimutz. Faites attention à ce que les Matzot n'en viennent pas à fermenter. Mikan, Amrou, de là, ils ont dit, Tafar tiltosh betsonen. Si jamais ça gonfle, il faut tout de suite verser un peu, tremper un peu d'eau froide pour empêcher la pâte de chauffer et de monter. Rabbi Ishaya Omer. Rabbi Ishaya nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Ushmartem et Hamatzot, vous garderez les Matzot. Al tehi kore et Hamatzot. Ne lis pas les Matzot. Et là, et ta mitzvot. Lis plutôt, vous garderez les mitzvot. Qui est derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, on garde les mitzvot pour ne pas qu'elles fermentent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est derrière, chez En Mach Mitzin et Hamatzot, nous dit Rabbi Ishaya, que de la même manière qu'on ne doit pas laisser fermenter la pâte des matzot, car En Mach Mitzin et Hamitzvot, de la même manière, ne fait pas tarder les mitzvot. Et là, seulement, imba'a liyadecha, si elle vient à ta main, si tu as une mitzvah à faire, assez ota miyad. Fais-la immédiatement, fais-la tout de suite. Ne tarde pas à faire. Tu as une mitzvah devant toi, prêt à faire, d'accord ? Tu peux la faire, ne dis pas, bon, j'ai le temps, on repousse, on attend un peu. De la même manière que tu ne dis pas, on attend un peu pour la pâte des matzot, ne dis pas, on attend un peu pour les mitzvot aussi. Fais-la tout de suite. Voilà ce que nous apprend ici le pasouk Ushmartem et Hamatzot. Alors évidemment, ça va bien au-delà du jeu de mots. Hein, et Hamatzot et Hamitzvot. C'est le même mot, on peut jouer avec ça. On a autre chose à faire que jouer avec les mots, si ce n'est qu'il y a des messages importants à transmettre. D'accord ? Alors pour la petite histoire, Ushmartem et Hamatzot, une fois il y avait un chassid à Yerushalayim, qui était en présence avec Rabbi Yitzhak Zeev, Brisk, c'est le rabbin de Brisk. C'est connu, la Shita de Brisk, c'est une Shita très mahmira, très medakdeket, dans les moindres détails, dans chaque mitzvah, ils sont très, très, très mahmirim, très pointilleux. C'est connu, c'est Brisk. Dès qu'il y a quelqu'un qui est mahmir, ils font comme eux. D'accord ? C'est connu. Shita de Brisk. Et évidemment, mahmir intelligemment, pas n'importe comment. Et cet homme-là, ce chassid, disait au Rav de Brisk qu'un jour, le rabbi est venu dans cet endroit-là, cuire ses matzot, et il y avait un Yehudi Pashut avec lui, et qui observait le rabbi faire ses matzot. Et lui, il voulait faire les siennes après. Il voyait comment le rabbi faisait les kavanot et les dikdukim, et à la vitesse où il travaillait, comment il faisait les matzot. Il était admiratif devant ce travail. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis dans un coin et il a prié. Et il s'est dit, moi, je ne suis pas comme le rabbi, je ne sais pas faire aussi bien que le rabbi. Mais je demande une chose à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Aide-moi au moins qu'elle soit bien cachère pour le soir du Seder. Et que je fasse la mitzvah comme il faut. Comme le rabbi, je ne pourrais pas, mais aide-moi. Et puis il est retourné. Une fois que le rabbi a fini, il a commencé à faire ses matzot. Mais le rabbi, il avait entendu la tfila de ce Yehudi Pashut. Il avait entendu la tfila. Et quand ce juif-là, il a fini ses matzot, il allait pour partir, le rabbi s'est approché de lui et lui a dit, « Rabbi, est-ce que tu es d'accord qu'on échange les matzot ?» C'est-à-dire, je te donne les miennes, que j'ai fait moi-même, et je prends les tiennes. L'autre, moi, est-ce que je suis d'accord ou... c'est un rêve, je rêve ou... Non, on échange les matzot, tout simplement. Et là, le chassid, il a accepté, il a changé ses matzot, il a donné ses matzot au rabbi, et le rabbi lui a donné les siennes. Alors le chassid qui racontait cette histoire au Rav de Brisk, il a voulu lui montrer que quand on fait des choses avec amour, c'est mieux que de faire les choses avec trop de chumrot. Il vaut mieux faire les choses avec beaucoup d'amour, et puis que ça soit kasher, plutôt que de faire un peu comme la chita de Brisk, de faire toujours la chumra et les détails et du détail. D'accord ? Donc tu vois que le rabbi il a accepté de changer ses matzot, c'est qu'il y a plus de valeur dans les matzot faites avec amour, même s'il n'y a pas autant d'attention et de chumrot. Le Rav de Brisk a dit non, je pense le contraire. Je pense que ce Yehudi Pashut, par sa tfila, il a mérité les meilleurs matzot. Et les meilleurs matzot, c'est celles qui ont été faites avec. Et c'est grâce à sa tfila qu'il a mérité ces meilleurs matzot. D'accord ? En tous les cas, l'enseignement de la fabrication des matzot, en réalité, on tire de là comment faire les mitzvot. Avec l'empressement, et ce n'est pas seulement sur la matzah, la pâte de la matzah qu'on doit faire. Sans tarder, avec beaucoup d'empressement et beaucoup de vigilance. Mais Rashi nous dit, rapporte Rabbi Yeshaya, pour nous dire que c'est toutes les mitzvot en réalité. Le message ici s'adresse au Ham Israël. Il nous dit que quand vous fabriquez les matzot, vous avez beaucoup d'attention, vous ne tardez pas, vous le faites avec beaucoup de vigilance. Sachez que pour les mitzvot, toutes les mitzvot, il en est de même. Voilà l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement qui nous concerne à nous, à Israël. D'accord ? Pessah, la sortie d'Égypte, a un deuxième enseignement, celui pour les nations. Donc, quel est l'enseignement des nations ? C'est la Haggadah. C'est tout ce que nous racontons à la sortie d'Égypte. Nous racontons comment est-ce que HaKadosh Baruch Hu s'est moqué de l'Égypte, Asher italalti b'Mitzrayim, comment je me suis moqué de l'Égypte. Et comment je me suis moqué de Paro, va chez Paro et dis-lui que si tu ne laisses pas sortir, demain tu reçois ça et demain tu reçois ça. Et toutes les makotes qu'ils ont reçues, c'était Mida Keneged Mida. Parce que le coup qu'ils ont reçu, c'est le coup qu'ils ont donné aussi. Donc ils ont payé coup pour coup, ils ont payé. Donc c'est le deuxième message. Ce message-là, lui, il s'adresse aux nations. Donc à Pessah, il y a deux grandes mitzvot principales fondamentales de Pessah. D'accord ? Deux grandes choses, deux grands messages. Celui aux nations et celui à Israël. Les deux mitzvot qui sont encore aujourd'hui, Mina Torah, tout le reste c'est des Rabbanan dans l'histoire de Pessah. Les deux qui restent de Horaïta, c'est la mitzvah de raconter, Sipur Yetziat Mitzrayim, qui s'adresse, lui, aux nations, puisqu'on ouvre notre porte et on crie haut et fort. Venez passer Pessah, et qu'est-ce qu'on raconte à Pessah ? On raconte comment HaKadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte. De même, il frappera toutes ces nations qui ont fait souffrir et oppresser Am Israël à travers l'histoire. Sachez que tous les pharaons de l'histoire paieront. Ils paieront Mida Keneged Mida, coup pour coup. Chaque coup qu'ils ont donné au Am Israël viendra le jour où ils paieront. Ça, c'est le message pour les nations. Le message qui s'adresse maintenant à nous, c'est tout autre. Le message qui s'adresse à nous, c'est celui comment faire les mitzvot. Vous allez sortir d'Égypte, on va vous donner des mitzvot plus tard, parce qu'ils savaient très bien qu'ils sortaient pour recevoir la Torah. Bien sachez qu'il faut acquérir, avant de recevoir les mitzvot, il faut acquérir la manière de faire ces mitzvot. Et la manière de faire ces mitzvot, c'est comme on a dit, comme j'ai raconté l'histoire, avec beaucoup, beaucoup d'amour. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine de donner les mitzvot. Si on fait parce qu'on doit faire point final et qu'on est obligé et contraint de faire, qu'on a 613 problèmes à régler dans la journée, d'accord ? Eh bien, on n'arrivera pas à se régler 613 problèmes dans la journée. Donc, ce n'est pas ça. C'est à la base, la sortie d'Égypte, c'est pour nous donner Ahavat Amitzvot. Et ça, on l'apprend de Ushmartem et Amatzot. Donc, c'est bien plus fort qu'un simple jeu de mots. C'est tout le message qui s'adresse à nous à la sortie d'Égypte. D'accord ? Maintenant, le Khatam Sofer pose la question suivante. Il demande pourquoi est-ce que ce message-là a été donné au moment de la sortie d'Égypte ? Pourquoi pas une autre fête ? Pourquoi pas autre chose ? Pourquoi pas un autre moment ? Pourquoi est-ce qu'on donne ce message de l'empressement et l'amour des mitzvot ? Pourquoi est-ce qu'on le donne au moment de la sortie d'Égypte ? C'est qu'il y a un rapport. Vous savez que chaque message que la Torah nous donne, il n'est pas aussi placé par hasard. L'endroit, les mots et tout ce qui a été dit en détail du message a son importance. Donc pourquoi à la sortie de Pessah, à la sortie d'Égypte ? Pourquoi ? Alors parce que quelques psukim plus loin, regardez, la page d'en face, pasuk lamed tête en bas. Page 155, pasuk lamed tête, il est dit, le Khatam Sofer qui pose cette question. Pourquoi est-ce que la Torah nous transmet le message de l'empressement et l'amour des mitzvot et qu'on ne doit pas retarder une mitzvah, pourquoi est-ce qu'on l'apprend à l'occasion de la sortie d'Égypte ? Le Khatam Sofer pose la question et il répond, c'est marqué, vous avez Pasuk la mettre tête ? Pasuk 39, page 155, Pasuk 39. Vayofu et Abatsek, ils ont cuit la pâte à Sherotzi ou Mimitzraïm, qu'ils ont sorti d'Égypte. Ugot Matzot Kilochametz, des gâteaux de pain qui n'ont pas fermenté, qui gorchou mimitzraïm, car ils ont été chassés d'Égypte, velo yachelou leit mahmea, et ils n'ont pas pu s'attarder plus longtemps, attendre. Ils n'ont pas pu attendre davantage en Égypte. Ils n'ont pas laissé la pâte monter parce qu'ils ne pouvaient pas attendre. Ils devaient sortir de toute urgence. Vegam tseda loa soulaim, et même des provisions pour le voyage, ils n'ont pas fait. Ils ne sont pas faits. Même des provisions. Quelqu'un qui part en voyage, il fait une petite provision. Rien, ils n'ont rien fait. Ils devaient sortir immédiatement et vite. Pourquoi ? Regardez Rashi. Vegam tseda loa soulahem, en bas à gauche, Rashi, les dernières lignes de Rashi. Vegam tseda loa soulahem. Rashi nous dit, Magid shevachan shel Israël. Ici, la Torah veut nous raconter les qualités, les louanges du Ham Israël. Shelo Amru et Arnetse la Midbar. Ils ne se sont pas posé la question comment est-ce qu'il est possible de sortir en plein désert, Belot Seda, sans provision. Et là, Heeminu ve Alhu. Ils ont eu Emouna, ils ont eu confiance, et ils sont sortis. Hushem Fourash Bekabala. Et c'est d'ailleurs ça qu'on dit dans le Nar, Nibim Ktuvim. Zachartila chesed neurayir ahavat kelulotayir l'erter acharay bamidbar beeres lozerua. Je me souviendrai ce chesed, toi, Israël, que tu as fait au moment de la sortie d'Égypte. Cet amour, ahavat kelulotayir, un amour sans fin, sans limite. L'erter acharay bamidbar, tu m'as suivi dans le désert quand j'ai dit à Amram, à Moshe Rabbeinu ben Amram, sors. Vous n'avez pas discuté, vous vous avez dit. Nous suivons Ben Amram, nous suivons Moshe Rabbeinu, Acharay Bamidbar, Be'eretz Lozrua, une terre desséchée qui n'était même pas ensemencée. D'accord ? Vous m'avez quand même suivi. Akadosh Baruch Hu dit, je me souviendrai toujours de ce précepte que tu as fait, de cet acte extraordinaire que tu as fait. Et vous savez ce que c'est le passouk que nous disons en plein Rosh Hashanah, à Moussaf, quand on mentionne le souvenir que je vous se rappelle du Ham Israël, c'est le premier passouk qui sort avec, après qui s'est souvenu de Noah, etc. Nous disons, souviens-toi, quand nous sommes sortis d'Égypte, l'Erter Acharay Bamidbar Be'eretz Lo Zeruah, le jour de Rosh Hashanah, le jour où on est jugé, on essaye d'attirer le maximum de mérite. Eh bien, on éveille ce souvenir-là qu'on est sorti d'Égypte avec tellement d'amour et tellement d'empressement. D'accord ? Souviens-toi de ça. Donc, on voit que ils sont sortis très vite. Très vite, ce qui ne leur a pas permis de préparer à manger ni de laisser la pâte monter. Tout de suite, ils l'ont sorti. Tout de suite, ils l'ont mis dans le four avant qu'elle monte. Ils l'ont sorti dès qu'elle était à peu près mangeable. D'accord ? Donc, Cet empressement, dit le Harizal, dans le Sidour du Harizal, cet empressement, il venait d'où? Pourquoi est-ce qu'il c'était si pressé? On ne peut pas cuire quelque chose, c'est quelques minutes. Ils sont restés 210 ans. Ils n'avaient pas encore une minute. Sur 210 ans, c'est quoi une minute? Laisse cuire et sors. Non. Le Harizal, la Kadosh, dit que c'était impossible d'attendre plus longtemps. Pourquoi? Parce que s'ils avaient attendu encore plus longtemps, ils seraient rentrés dans le Sha'ar Anoun Shel Tum'a, 50e niveau de Tum'a. Et c'était une extrémiste. Akadosh Baruch Hu les a sauvés à temps. S'il avait tardé un peu, s'il a dit, on attend un petit peu, attends, quoi, attends. S'il avait tardé un petit peu, ça aurait été trop tard. On ne serait pas là ce soir. On ne serait pas là ce soir. D'accord ? Non mais attends, il faut sortir, il faut accepter de sortir avec les enfants sans rien. Sans lait, sans rien. Eh oui, et c'est vrai. Mais regarde, ce que en même temps, le chesed qu'Akjoukou nous a fait, il savait très bien que si on voulait devenir ce Am Israël et tout ce dont nous avons mérité à travers l'histoire, tout ce que nous avons apporté à l'humanité à travers l'histoire, nous sommes du Am Israël, d'accord ? Ce mérite-là, on le doit à ce moment-là précis, car Akjoukou n'a pas tardé. Toute notre histoire, elle a été décidée en quelques minutes au moment du Yetziat Mitzrayim. Si HaKadosh Baruch Hu avait dit « Attends un petit peu, on n'est pas une minute près, on ne serait plus sorti. » Donc on voit que HaKadosh Baruch Hu s'est empressé. Il s'est empressé de nous faire sortir d'Égypte. Il n'a pas tardé. Donc, Rabotai, nous devons apprendre cette leçon-là. Comme lui, le maître du monde, n'a pas tardé et s'est empressé de nous sauver d'Égypte, nous, à notre tour, on doit lui rendre ça. Quand il nous demande quelque chose, on ne tarde pas et on s'empresse de le faire. Comprenez pourquoi est-ce que cette notion, on l'apprend au moment de la sortie d'Égypte? Parce qu'en réalité, ce que HaKadosh Baruch Hu nous demande, cet amour qu'il nous demande de lui envers nous, c'est parce qu'il nous l'a montré, nous envers lui plutôt. Cet amour que nous avons, d'accord? HaKadosh Baruch Hu, il veut que nous lui rendons cet amour-là, comme lui n'a pas attendu. Il n'a pas repoussé la chose, il l'a fait tout de suite et ça nous a sauvés d'Égypte. Eh bien, nous, à notre tour, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, on n'attend pas et on le fait tout de suite. Voilà pourquoi est-ce que cette notion de Ushmartem est à mitzvot, vous garderez les mitzvot, vous ne les retardez pas. Mitzvah bal yadecha altach mitzena, la mitzvah qui vient dans tes mains ne la rend pas chametz, ne la repousse pas, ne la fait pas tarder. Elle vient parce que HaKadosh Baruch Hu lui-même, lorsqu'il a fallu nous sauver, il n'a pas tardé d'un moment, il nous a sauvés tout juste avant que nous sombrions dans l'obscurité égyptienne pour toujours. Vous comprenez? Vous comprenez le rapport? C'est pour cela qu'à ce moment précis, HaKadosh Baruch Hu nous demande de ne pas attendre à notre tour quand il nous demande de faire quelque chose. Parce que lui, Mida Keneged Mida, lorsqu'il a fallu intervenir, il n'a pas attendu, il s'est empressé de nous sauver pour ne pas que nous restions en Égypte pour toujours. Voilà. Vous comprenez? C'est la raison pourquoi la sortie d'Égypte nous transmet tout ce message-là. Aime et sois empressé de faire ce qu'il te demande. Voilà, Rodin. Quelque chose qui vient à ta main, ne le lâche pas. On raconte, il y avait un juif qui était, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le voir, qui était, mes enfants m'ont amené à voir un juif, un chassid, un tzaddik. C'est un escapé de la Shoah. Il avait toujours plusieurs talits sur lui, deux talitotes sur lui, talit katan, un talit normal, et un autre talit qu'il n'a jamais enlevé de sur lui. Ce talit-là, comment est-ce qu'il a fabriqué? Comment est-ce qu'il a fait ce talit? Il était dans les camps de concentration, il est rentré dans un camp de travail, et quand il est rentré dans un camp de travail, dans le camp de concentration, il a vu une pelote de laine blanche. Une pelote de laine blanche. Et ça lui a fait penser qu'il n'avait pas de tzitzit. Et là, il avait de la laine toute prête pour faire des tzitziot. Qu'est-ce qu'il a fait? Ni une ni deux, il a pris la pelote de laine, et en sortant, il a vu une serviette. Une vieille serviette. Et il a attrapé la serviette. Et il a pris les deux comme ça, il était dans sa chambre. Et toute la semaine, en revenant du travail, quand il rentrait dans son campement où il vivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué des tzitziot. Il a fait des trous à l'endroit où il fallait, dans la serviette. Il a fait un trou au milieu. Et après, là, il a mis les tzitziot. Et il s'est gardé ce tzitzit sur lui pendant... Et il le mettait tous les jours. Il le transmettait à d'autres. Et qui transmettait à d'autres. Plusieurs centaines de personnes faisaient la mitzvah tzitzit avec Kriyat Shema, voire des milliers de personnes. Et imaginez-vous tous les jours à accomplir cette mitzvah-là. Quand il est sorti de la Shoah, il a demandé « Qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que maintenant, c'est quoi le mieux? Quel est le tzitzit qui a le plus de valeur? Est-ce que c'est le tzitzit que j'ai fabriqué à la Shoah, que tellement de juifs l'ont mis et ont fait Kriyat Shema dessus? Ou alors celui que je peux acheter tout neuf maintenant là-bas au magasin? Quel est le tzitzit qui a le plus de valeur? Évidemment, on lui a répondu, c'était celui-là. D'autres lui ont dit non, c'était un neuf, parce qu'ils disaient qu'il y avait un VU. En tous les cas, comme il ne savait pas, il a mis les deux. Il mettait les deux. Il voulait toujours porter ce tzitzit-là. C'est un juif connu à Yerushalayim. Ce tzitzit-là, toute sa vie, il a porté ce tzitzit-là qu'il avait de la Shoah. Donc vous voyez, c'est cet amour-là que je vous demande. Une mitzvah, il faut avoir cette présence d'esprit. Tu as une mitzvah à faire, il faut que tu aies le déclic. Fais-la tout de suite. D'accord? Alors maintenant qu'on a, expliqué ça, on va maintenant rentrer un peu plus dans les profondeurs. Alors, vous savez... Pourquoi est-ce que ce message a été dit en Égypte? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas à un autre moment où Israël a prouvé son amour pour HaKadosh Baruch Hu? Pourquoi juste à l'Égypte, dans l'Égypte, à la sortie d'Égypte? Alors, le Zohar nous dit, nous apprend quelque chose. Il se base, c'est Tikkuné HaZohar qui dit ça, il se base sur un pasouk dans Yéhézkiel qui dit un pasouk que tout le monde, que beaucoup connaissent. Il nous parle de l'Égypte. Là-bas, Yéhézkiel nous parle de l'Égypte. Et il compare l'Égypte à quoi? À quelle bête? Il compare l'Égypte à un chamor. Il dit Bessaram ki Bessar chamorim Bessaram ki Bessar chamorim Bessaram. Yéhézkiel compare Mitzrayim à Bessar chamorim, à un chamor. Pourquoi est-ce que Yéhézkiel compare l'Égypte à un chamor? Parce qu'il dit la klipa du chamor, c'est Atzlout, comme ça dit le Zohar. La klipa du chamor, c'est Atzlout. Vous savez ce que c'est klipa? On a souvent expliqué ce qu'on appelle klipa. Hein? Dans la Briat HaOlam, dans la création du monde, notre manière de profiter du monde, il faut savoir qu'il y a toujours une chose à profiter, une chose à rejeter. Dans chaque chose qu'on profite dans ce monde, il y a une chose qu'on profite, une chose qu'on rejette. Chaque chose. Je mange un fruit, je mange le fruit, je jette la klipa, je jette les pluchures. D'accord? Dans ma vie professionnelle, d'accord, je travaille, je profite de mon travail, mais je repousse ce qui n'est pas bien. Vol, mal travaillé, l'entente, etc. Tout ce qui peut perturber, déborder sur le monde du travail. Je vis une vie de couple, je profite, mais attention, il y a une chose à rejeter qui n'est pas bonne. Dans chaque chose que je profite dans le monde, il y a une chose qui est bonne, une chose qui est négative, qui n'est pas bonne. Et notre travail, à nous du juif, c'est de repousser la klipa. De repousser la klipa. La klipa du chamor, c'est quoi? C'est ce qui est à repousser, qui n'est pas bonne. D'accord? C'est la atzlout, la paresse. La paresse. Comme ça le Zohar dit. La klipa du chamor, c'est la paresse. Et comme nous étions... emprisonné en Égypte pendant 210 ans, alors ce qu'il a fallu faire justement en sortant d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, on a rejeté cette klipa, comme ça dit le Zohar, on rejette cette klipa, cette chose négative qui est la Hatzlout. Donc, la sortie d'Égypte correspond bien à ce que la Torah nous dit, Ushmartem et Tamatzot, c'est de faire les mitzvot avec empressement et pas avec paresse. Pas en retard, c'est un paresseux qui retarde les choses, d'accord? Donc c'est pour ça que, d'où vous croyez que l'expression populaire qu'on dit « tu es un âne », c'est quoi? Un âne, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de s'efforcer, il n'a pas envie d'apprendre, il a pas... Donc ça, on lui met un bonnet d'âne. D'où ça vient ça? Pourquoi l'âne? Pourquoi pas une autre bête? Toutes les bêtes sont aussi bêtes, hein? Il n'y a pas une bête moins bête ou plus bête que l'autre, toutes sont aussi bêtes. Alors pourquoi l'âne? Pourquoi est-ce qu'on appelle quelqu'un qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas travailler, on l'appelle un âne? Pourquoi? Parce que justement, la klipa de l'âne, c'est la atzlout, c'est la paresse. Évidemment, il ne connaît rien, il ne sait rien, il va au piqué comme un âne. D'accord? Et c'est de là de provient cette expression-là, être paresseux comme un âne, c'est ça. Il n'y a pas plus têtu qu'une mule. Faites avancer une mule. Vous n'avez pas envie de travailler, vous vous fatiguez pour rien, elle n'avancera pas. Vous savez ça. Alors voilà. Donc, l'âne représente, Rabotai, la Hatzlout. Mitzrayim représente la Klipa de Hatzlout. Et lorsque nous sortons d'Égypte, en réalité, nous repoussons, nous rejetons cette Hatzlout pour acquérir l'empressement des mitzvot. Donc tout s'emboîte, tout se correspond comme il faut. Oui.
Pourquoi on dit que l'Égypte, c'est la paresse?
Parce qu'il est comparé à un Hamor. Yéhezkiel compare l'Égypte parce que c'était des Hamor. C'était des paresseux. Pourquoi est-ce qu'ils ont oppressé Amisraël en les faisant travailler? Chaque Égyptien, dans chaque Égyptien, il y avait des Juifs qui travaillaient et eux. Ils se foutaient absolument rien. D'accord ? C'est la manière dont ils ont oppressé Israël, c'est en les faisant travailler à leur place. Tout le travail qu'ils devaient faire, ils le faisaient eux. Ils ne faisaient rien du tout. C'est la Hatzlout. C'était des Hatzlanim. D'accord ? Regardez si on peut éteindre le chauffage. Je vous ai promis chaud, mais là, ça devient trop chaud. Là. D'accord ? Donc, vous voyez le rapport qu'il y a. Klipat Mitzrayim, selon le Zohar, c'est la Hatzlout. Vous allez voir qu'en réalité, on va rentrer un peu plus profond. Vous allez voir, on va retrouver ce fameux Hamor-là. Alors, si je vous dis, je vous demande, parmi les trois Avot, quelle est la chose qui était la plus extraordinaire? Oui, il n'y a pas plus? Vous dites quoi, la Akeda? Donc il y a la majorité qui dit Akeda. D'accord? C'est la Akeda Titzrak. D'accord? Nous allons voir que tout le mérite de la Akeda Titzrak, elle était représentée par un Hamor. Regardez. Vous allez voir. Non, mais je vais vous montrer ça. Là, on met la deuxième vitesse. On va plus au fond. Regardez ce qui a été dit au sujet de la Akeda Titzrak. Au sujet d'Akeda Titzrak, c'est la page. Non, c'est Parchat Vayera. Parchat Vayera. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, prends ton fils, d'accord, et apporte-moi le comme Ola. Et donc, page 47, Pasuk Gimel, dans Vayera. Page 47, Pasuk Gimel, il est dit Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Hamoro. Avraham s'est levé le matin très tôt, donc je vais vous montrer que justement que la klipa de Hatzlout, c'est Hamor. Vous allez voir. Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Hamoro. Avraham se lève tôt le matin et il chevauche son âne. Vayikar et Chenen et Arav Ito. Il a pris ses deux jeunes avec lui. De quels deux jeunes il s'agit? Hein? Ishmaël et Eliezer. D'accord? Vet Yitzhak Beno, évidemment, Yitzhak son fils. Vaivaka Tzola, il a préparé du bois. Vaiakom, Vaielech, Elamakom, Asher, Maraloé, Lokim. Il est allé vers l'endroit où Dieu lui a dit. D'accord? Vaiom, Achelishi, Vaïsa, Avraham, Etena. Voilà le troisième jour qu'Avraham lève ses yeux. Vaiar, Etamakom, Erachok. Et il voit l'endroit de loin. Vayomer Avraham el Neharav, et Avraham dit à ses jeunes, chez vous la Chempo, vous restez ici, Aïma Hamor, avec l'âne, d'accord? Va'ani, ve'anar, nelcha, adko. Et nous irons jusqu'à là-bas, jusqu'en haut. Vinishtachave, venashuva, lechem, on va juste se prosterner, nous reviendrons, d'accord? Alors, qu'est-ce que Rashi dit, Vayashkem Avraham Baboker? Regardez. Tout démarre à partir de Rashi. Vayashkem, Rashi, Pasuk Gimel, dans Rashi à droite, en bas de la page. Vayashkem, Nizdarez, la mitzvah. Il s'est empressé pour la mitzvah. Vayachavosh, Beatzmo, il a chevauché, il a préparé son âne lui-même. Velotziva l'echad me'avadav, il n'a pas demandé de préparer son âne, il n'a pas demandé ça à un de ses serviteurs. Chez Ahava, mekalkelet et Ashura. Parce que justement, l'amour, parfois, fait l'homme se comporter de façon anormale. Un homme, il aime tellement qu'il se comporte plus très normalement parfois. Comme l'inverse parfois. Pour Bilham, il a été dit aussi, Vayashkem Bilham et Baboker, Vayachabosh et Ramoro, il s'est levé tôt, il a pris son ramor. Comme pour Abraham, pour lui, c'était pour faire du mal. Que la sin'a, la haine parfois, mais qu'elle était à Ava, elle détruit le comportement de l'homme. Mais là, Abraham Avinu se détruit son comportement, c'est-à-dire se conduit pas normalement comme un homme, comme lui devrait se conduire, d'accord ? Et va lui-même préparer son âne alors qu'il aurait pu demander à son serviteur. Parce qu'il aime tellement, il est tellement empressé à faire ce que je vous lui demander, il est empressé, il ne veut pas tarder, il veut le faire tout de suite. Par contre, à ses deux serviteurs, quand il arrive à la destination, le troisième jour, à ses deux serviteurs qui sont qui ? Qui sont, comme on a dit, Eliezer et Ishmael. Eliezer et Ishmael, Rabotai, c'est Klipat Mitzrayim. Puisque qui est le grand-père d'Ishmael ? Vous connaissez le grand-père d'Ishmael ? À part Terar. Le grand-père d'Ishmael, c'est qui ?
C'est Pharaon.
Hein ? Oui, c'est le roi Pharaon. C'est Pharaon qui a dit, je préfère que ma fille soit dans la maison de cet homme-là plutôt que princesse ici chez moi, à la maison en Égypte. Il a donné Hagar à Abraham. Il a donné Hagar, sa fille, à Abraham. Donc elle descend d'Égypte. On sait très bien que Eliezer descend de Nimrod, qui a eu tous les enfants, dont Kouch ou Mitzrayim, d'accord ? Et Eliezer descendait de Nimrod. Donc c'est la même Klipa, c'est Mitzrayim, d'accord ? Eh bien, vous restez avec le Hamor. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, Am, pas Im a Hamor, mais Am a domé le Hamor. Par contre, Avraham Avinu, quand il veut montrer sa Zrizout, qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il domine, il monte sur son chamor. Qu'est-ce que ça veut dire ? Monter sur le chamor à Botaï, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dominer la mida de Hatzlout. Vous comprenez ? Dominer cette mida de Hatzlout et être quelqu'un d'empressé et de zarise pour faire les mitzvot. C'est ça que ça veut dire. Il est monté sur le chamor. Vayachavosh et Ramoro. D'accord ? Donc, on voit d'ici déjà que lorsqu'on nous parle d'une mitzvah qui se fait avec empressement, on nous dit il est monté sur son âne. D'accord ? Nous allons voir que ce n'est pas encore seulement ici. On voit une deuxième fois. Où ça ? Dans Parshat Shemot. Regardez Parshat Shemot. Là-bas, lorsque Akadosh Baruch Hu, après 7 jours de discussion, parle à Moshe Rabbeinu, 7 jours, il essaye de le séduire. 7 jours jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu n'en peut plus. Et lui dit, Moshe, ça suffit, arrête de discuter, arrête de dire non. Tu prends tes affaires et tu vas en Égypte. Tu ne discutes plus, au bout de 7 jours. Il n'y a que toi qui peux y aller. Il n'y a personne d'autre qui peut y aller. Parce que s'il y avait quelqu'un d'autre, s'il y avait quelqu'un d'autre qui serait capable de sauver Israël d'Égypte, il est évident que Akadosh Baruch Hu aurait pris un autre. Une, deux, trois fois, tu ne veux pas, j'ai un autre qui est capable. C'est que si pendant 7 jours, il dit à Moshe, c'est que seule cette Neshama pouvait... était capable de sortir à Israël d'Égypte. D'accord ? Donc, il s'adresse à Moshe pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, bon, ça va. Moshe, il reçoit l'ordre d'y aller. Il y va, il ne discute plus. Et là-bas, il est dit, regardez. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Regardez ce qui est dit là-bas. Je vais te donner tout de suite, si je le trouve.
134.
Voilà, 134. Il est dit, Pasuk Yutret, d'accord ? Même plus loin, Pasukraf. Vaikach Moshe et Ishto veet Banav. Vous voyez ? Page 134, Pasukraf. Vaikach Moshe et Ishto veet Banav. Moshe va prendre sa femme, ses enfants. Vayar Kivem à la Chamor. Il va aller mettre sur le Chamor. Vaya Shov Arza Mitzrayim. Et il retourne au pays d'Égypte. Vaikach Moshe et Mate Elohim Beyado. Et Moshe prend le bâton de Dieu dans ses mains. D'accord ? Dans sa main. Donc, il est dit quoi ? Vaikach Moshe et Ishto veet Banav. Vayar Kivem à la Chamor. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Vayar Kivem à la Chamor ? Regardez Pasukraf Rashi. À la Chamor. Chamor Hamiuchat. Ha Chamor. Pas le Chamor. Sur un âne. Sur l'âne. Il a mis sa femme et ses enfants sur l'âne. Pas sur un âne. Si c'est sur l'âne, Rashi dit, c'est un Chamor connu. A Chamor Ayadoua. C'est l'âne connu. Ou A Chamor Shechava Shavraham la Keda. C'est le Chamor qu'Abraham a utilisé pour partir, a chevauché pour partir faire Akedat, pardon ?
Il avait
Il a vécu longtemps, mais pour nous, il n'y a pas, pour Akash Boku, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps. D'accord ? Il a été. Comment ça se fait que le bâton était entre les mains de Moshe, ce bâton qui était au Gan Eden ? Même question. Il a vécu longtemps, ce bâton aussi.
Le bélier d'Abraham, le bélier
bien sûr.
Qui remplaçait Israël, qui était là depuis.
Oui, mais merci Bereshit. D'accord ? Donc. Ça, c'est des questions qui sont. La Torah, elle est au-dessus du temps, au-dessus de l'âge, au-dessus des périodes. Regardez. Achamor, Hashemi Chamor Amiuchad, ou Achamor Shechavash Avraham la Akedat Yitzhak. C'est le Chamor qu'Avraham a chevauché à la Akedat Yitzhak. Vehu, et ça n'est pas fini. On nous dit Vehu, Sheatid Melech Hamashiach le Galot Alav. Et c'est ce Chamor-là, donc ce n'était pas au début. Hein, tu n'étais qu'au début plutôt. C'était loin de t'imaginer que c'est ce Chamor-là qui va servir, d'accord ? Il est quelque part, ce Chamor, qui va servir au Mashiach, qui va le chevaucher pour venir nous annoncer et nous dire que ça y est, Am Israël est délivré. Les Higalot Alab se dévoilaient dessus. Shenehemar, comme il est dit, Ani Verochev Al Chamor. D'accord ? Tu sais, je te dis, franchement, quand on voit un peuple comme Israël, qu'on a tout fait pour le détruire et qui vit toujours, on peut croire tout. Oui. Ça nous est permis de tout croire. D'accord ? À peu près, oui, si on veut. Alors regardez, donc, Ani Verochev Al Chamor, on dit que le Mashiach, il va être ce pauvre-là qui va chevaucher le Chamor, qui va chevaucher l'âne. Donc nous avons trois endroits, Rabotai, où on nous parle de chevaucher un Chamor. Le premier, c'est celui d'Avraham Avinu, pour aller à Kedat Yitzhak, où c'est marqué Nisdarez. Donc ça veut dire qu'il est, il a surmonté cette mida de Hatzlout. C'est ça que ça veut dire. Monter le Chamor, ça veut dire surmonter cette mida de Hatzlout et devenir un homme Zariz. Le Chamor dont Moshe Rabbeinu a chevauché, a fait chevaucher sa famille dessus. D'accord ? Et c'est aussi ce Chamor-là qui a servi pour Avraham Avinu. D'accord ? Et c'est celui qui servira pour le Mashiach, trois fois, qui va chevaucher, qui va amener, qui va se dévoiler dessus, d'accord ? Alors, pour Avraham Avinu, on a compris que c'est la Zrizout, d'accord ? D'où voyons-nous que pour Moshe Rabbeinu, c'est aussi la Zrizout ? Bien, regardez, Avraham Avinu a utilisé ce Chamor parce que c'était un Chamor express, paraît-il. Ce n'était pas un Chamor régional ou omnibus, d'accord ? C'était un express... C'est un TGV, un TTGV plutôt, TTGV si vous voulez, d'accord ? Mais vraiment, mais il n'y avait pas encore les phares, hein, encore à ce moment-là, il n'y avait pas les phares. Alors donc ce Chamor-là, pourquoi est-ce qu'ici il s'agissait d'être empressé ? Regardez quelques psukim plus loin, donc Moshe Rabbeinu est en Shlichut, d'accord ? Moshe Rabbeinu est en Shlichut, il est en mission, il monte sur l'âne, il est en mission, il va délivrer les... Il va délivrer les bénis Israël d'Égypte, d'accord ? Regardez, quelques psukim plus loin, qu'est-ce qu'il est dit ? Vayi baderer, pasuk rav dalet, à peine un peu plus bas. Pasuk, toujours page 134, pasuk rav dalet. Vayi baderer bamalon, vayiv geshehu Hashem, vayiv akesh amito. Voilà Moshe Rabbeinu, il arrive en voyage à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu cherche à tuer Moshe. Là, on ne comprend plus rien, là. Il cherche à tuer Moshe. Mais attends, pendant 7 jours, tu lui as dit, il n'y a pas d'autre que toi. S'il n'y a pas toi, il n'y a personne. Am Israël attendent. Ils sont là en galoute depuis 210 ans ou 400 ans. D'accord, comme vous voulez. Et ils n'en peuvent plus de ce galoute-là. Ils crient vers moi, ils ont prié vers moi. Fais-nous sortir d'ici. D'accord ? Et toi, tu es là ? Akjourou, il vient pour le tuer ? Mais alors, où est la Géoula ? Alors, où est Yitzhak Misraim ? Où est Matan Torah et tout, ces, et tout ça ? Où ça se passe ? Où ça ? Où on met tout ça maintenant ? Qu'est-ce qui se passe là ? Seulement, nous dit Rashi, Vayi baderer bamalon, Rashi nous dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il avait un problème, il ne savait pas quoi faire. D'accord ? Il s'est dit, comme je l'ai dit la dernière fois, ou bien je fais la Brit Mila de mon fils, parce qu'il a pas, il avait tardé la Brit Mila, ou bien je fais la Brit Mila de mon fils. D'accord ? Il a tardé, il devait faire. D'accord ? Ou je fais la Brit Mila de mon fils, et si je voyage tout de suite après, je le tue. Il ne veut pas supporter le voyage. Ou bien je fais la Brit Mila et j'attends. D'accord ? Donc, quoi faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Moshe Rabbeinu ne savait pas vraiment quoi faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ? dans l'attente de la Brit Mila, il va chercher une chambre. La Torah qui nous dit Ita Asek Bamalon Techila. Au lieu de dire d'abord je pose mes affaires chez la Brit Mila à mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les matelas, s'ils sont bien moelleux, les draps, est-ce que la chambre est bien, j'ai une femme, j'ai des enfants, s'il vous plaît. D'accord, je m'installe, et ensuite, je fais la Brit Mila. Je vous le dis, non, c'est pas ça. Si c'est ça, alors, j'ai plus besoin de toi. Tout le but, Yetziat Mitzrayim, c'est quoi, Rabotai? Zrizut, Ahavat HaMitzvot. Tu as une mitzvah, ne la laisse pas traîner. Va transmettre ce message au Bnei Israël. C'est la seule manière de sortir d'Égypte. L'Égypte qui est la clipa de Hatzlout, Hamor. D'accord? Qui Bessar, Hamorim, Bessaram. Donc, moi, je t'envoie pour leur enseigner et leur montrer ce que c'est Zrizout. D'accord? C'est le but. Et d'ailleurs, il va y arriver, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'ils vont suivre avec empressement. Ben Amram, ils vont le suivre avec empressement. Donc il va y arriver. Mais en tous les cas, là, ça, c'est mal barré. Ça commence mal. Il va pour apprendre, pour transmettre ce message au Béni Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir si la chambre est correcte pour lui et sa femme et ses enfants. Non. T'as rien compris? Le message, il tombe à l'eau dans ce cas-là. C'est pour ça. Vous comprenez? Donc on voit le lien entre le message de la Yitziat Mitzrayim, tout le sens profond de Yitziat Mitzrayim et l'empressement des mitzvot. L'homme qui doit apporter ce message-là, il doit être convaincu de ça. S'il n'est pas convaincu de cette mida de Zrizout, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ce Hamor dont on parle ici, c'est Moshe Rabbeinu, on ne voit pas qu'il est lui monté sur le Hamor. C'est marqué qu'il a mis sa femme et ses enfants. Vayar kivem ala Hamor. Donc ça, encore, ça manquait un petit peu à ce niveau-là, ça s'est tout de suite vu. D'accord? Et là, il a compris. Moshe Rabbeinu, avec cet incident qu'il y a eu au Malon, qu'il devait être le symbole même de l'empressement et de la ahava des mitzvot, de l'amour des mitzvot. Il a compris, il a failli laisser sa vie. Par contre, Tzipora, qui est elle montée sur le Hamor, c'est elle qui lui a sauvé en s'empressant et en coupant la horla de son fils. Vous voyez?
Elle a justement dominé, peut-être.
Voilà. Elle qui est montée dessus, d'accord? Elle a su réagir. Elle a su, c'était tzadéquette. Elle était plus tzadéquette que Moshe Rabbeinu.
Elle a compris.
C'était pas évident pour elle. C'est ça, c'est comprendre qu'il y a une mitzvah à faire, c'est ça l'empressement. Quand on aime quelque chose, on comprend tout de suite que là, la chose est là. On voit tout de suite la chose. D'accord? Quand on n'aime pas, on ne la voit pas. Ouais, mais du tout, je suis passé 10 fois, je n'ai pas vu. T'as pas envie de la voir. Quand on veut, on a envie. Quand on aime la chose, on la voit. D'accord? Quand quelqu'un était un peu sourd d'oreille, il entendait très mal. Un jour, il y a une pièce qui est tombée par terre. Il a sursauté. Ah, j'ai eu peur. Allez, là. Attends, mais toi. Tu entends mal, il paraît. Oui, j'entends mal parce qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, on ne voit ce qu'on a envie de voir et on aime ce qu'on a envie d'aimer. D'accord? Et elle, Tzipora, qui était montée sur ce Hamor, elle a réagi avec un empressement, elle lui a sauvé la vie. Mais Moshe Rabbeinu, lui, qui n'était pas monté encore sur ce Hamor. Vous voyez, il lui manquait encore ce petit peu. Et là, il a compris. Et tout de suite, il part direct. Va Yomer, va Yaged, va Yeler, et va devant Paro. En quelques psukim, il est déjà devant Paro. Il a compris. Vous voyez, Rabotai. Donc encore une fois, cette notion de Hamor avec la Zrizout. Maintenant, il nous reste Mashiach. D'accord? Mashiach, en quoi? Vous savez, ça me fait penser à une chose, une Gemara qui dit, dans Brachot, Davdalet, la Gemara nous dit que la nuit, oui, la nuit est partagée en trois gardes. La nuit est partagée en trois gardes, d'accord? La première garde, c'est laquelle? C'est quand on entend les ânes brayer, brayer. Embrayer, c'est l'embrayage, c'est autre chose. D'accord? C'est pas encore venu vraiment. D'accord? Brer. Quand on entend les ânes brer. Ça, c'est le siman que la première mishmera, la première garde, est passée. Et arrive. C'est le début, c'est la tombée de la nuit. D'accord? Quand on entend un âne brer, ça veut dire que c'est la première garde qui commence. D'accord? Jusqu'à la deuxième, et ensuite la troisième garde. En tous les cas, l'âne dont on parle ici, Donc le Atzlan, le paresseux dont on parle, ce n'est pas un paresseux qui n'a rien fait de la journée. D'accord ? Les ânes dont on parle, Rabotai, ce sont des ânes comme nous, qui avons travaillé dur toute la journée. Un âne, il faut savoir que c'est... Les routiers sont sympas. C'était le moyen de transport et de livraison du matin jusqu'au soir, du début du jour jusqu'à la tombée la nuit. Comme je vous ai dit, il n'avait pas de phare encore, sinon on l'aurait fait travailler la nuit aussi s'il avait des phares. Les phares, ils lui ont poussé plus tard. D'accord ? Ils lui ont poussé plus tard. Mais là, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les phares. Mais l'âne était là, et on chargeait, et on travaillait toute la journée. Et vous savez pourquoi l'âne brait le soir ? Parce qu'il s'est dit, ça y est, il brait de joie. Il est heureux. Il s'est dit, je revois mon étable, je sais que jusqu'à demain matin, on me fout la paix. C'est cette midala qu'il faut dépasser. C'est cette midala qu'il faut éloigner. Ça veut dire que vous avez travaillé dur toute la journée comme des ânes, mais le soir, à la tombée de la nuit, vous êtes où ? Ici, au Beit HaMidrash. Le travail n'est pas fini. C'est ça. Vous êtes en train d'étudier Torah. Vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train d'amel batora. Vous comprenez ? Ça, c'est dépasser l'amida du Hamor. Ça, c'est dépasser l'amida du Hamor. Lui, le vrai paresseux, c'est pas celui qui fout rien du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Celui-là, bon, c'est à désespérer, c'est autre chose, ça, c'est un autre cas. D'accord ? C'est pas le Atzlan dans son oisiveté. C'est pas ça. Le Atzlan, quand on parle ici, c'est quelqu'un qui dit, ça y est, je me suis débarrassé maintenant de mon fardeau, je vais enfin me reposer. D'accord ? Et c'est pour cela qu'Issachar, on l'appelle Hamor. Vous savez, Issachar ? Issachar Hamor Garem. Pourquoi on l'appelle Hamor ? Parce que justement, après une journée de beddin, une journée de travail, une journée de limoud intense, d'accord ? Quand le soir arrivait, il n'allait pas braire dans son étable. Quand le soir arrivait, d'accord ? Issachar se remettait encore à apprendre et se remettait à travailler. Et Zevulun, lui, allait travailler à l'extérieur. Mais le travail de Issachar était un autre travail, d'accord ? Et vous savez comment, nous dit mais c'est quelque chose d'extraordinaire, le Midrash nous dit comment est-ce que Issachar est venu au monde. Vous savez comment Issachar est venu au monde ? Il y a le mot Sachar dedans. Il y a le mot Sachar, vous rappelez ? Ça vous dit quelque chose, Parshat Vayetse ? Eh bien, Léa a donné des doudaïm de son fils que Reuven avait trouvé, d'accord ? Elle les a donné à Léa, Rachel les a échangés, d'accord ? Et c'est Rachel, oui, qui avait échangé, d'accord ? Qui avait échangé, et donc Léa, elle lui a laissé donc les doudaïm, et comme Yaakov devait s'accoupler avec Rachel ce soir-là, Rachel lui a laissé. Elle a payé cher ça, Rachel. Elle a payé ça très cher, puisque une des raisons pourquoi elle n'a pas été enterrée avec Yaakov, elle n'a pas mérité d'être enterrée avec Yaakov, c'est parce qu'elle a repoussé son mari, la couche de son mari, donc elle n'a pas mérité de coucher avec lui pour l'éternité. D'accord ? C'est, bon. En tous les cas, elle s'est retrouvée. Il s'est retrouvé. Oui ?
J'arrive plus à suivre. Si c'est une punition ou si c'est un bien.
Elle a fait un chesed avec Léa, mais elle a en même temps un peu méprisé Yaakov. Oui, non, c'est une des raisons, j'ai dit. Une des raisons. C'est une des raisons. Oui, non, mais ça fait partie du plan, du projet. Ça veut dire qu'il y a toujours un projet qui doit s'appliquer, d'accord ? Et donc, il faut un élément qui provoque la chose. La réalisation de ce projet. Un élément qui concrétise. Alors, il peut être bien, il peut être négatif, positif, il peut être... Mais il faut que ce projet se réalise.
Oui. Le plan d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Rachel soit enterrée sur la route.
Voilà. Oui, exactement. Voilà, exactement. Mais d'un autre côté, elle va être privée d'être enterrée à côté de son mari. De ce côté, elle va être aussi privée. C'est vrai que ça va être un chesed pour le Ham Israël qui passeront par là. Elle se lèvera sur son kever pour pleurer. Rachel Mevaka Albanea, c'est vrai. Mais d'un autre côté, elle va le perdre pour l'éternité. D'accord ? Donc il y a quelque chose aussi qui a déclenché, qui a provoqué ça. Oui. Il aurait pu être enterré à côté d'elle sur la route et pleurer avec elle. Non, lui, là-bas. Donc pourquoi elle n'a pas mérité d'être enterrée à côté de lui ? Hein ? Oui, si tu veux. Ouais. Je ne sais pas où il faisait plus chaud. Il fait plus chaud dans... En tous les cas, tu comprends ? Mais je crois qu'il faut qu'on fasse un jour un chiour ensemble sur ce qu'on appelle le projet divin. Ce jour-là, on se comprendra bien, Ray et moi. En tous les cas, tu comprends, il y a un élément qui va déclencher, qui va provoquer le projet. Alors, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Issachar, Yaakov s'est retrouvé chez Léa. Comment est-ce que Léa a su que Yaakov arrivait ? C'est lorsqu'il va Yavo Yaakov Minasade, c'est marqué. Va Yavo Yaakov Minasade, Ba'erev, le soir. Au début de la Shmoura, la première Shmoura, elle a entendu l'âne brer. Tout de suite, elle est sortie. Vatetsedina, Vatomer Elav, Elaitavo. Pardon, Vatetseléa. D'ailleurs, on dit c'est pour ça qu'elle est sortie d'Ina, parce que Léa est sortie. Vatetseléa. Léa est sortie. Elle est allée voir Yaakov. Elle a entendu l'âne brer. Elle lui a dit c'est pas là, c'est pas par là. Ça y est, je t'ai loué ce soir. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appellera Issachar. En même temps, un mérite, Sahar. Hein ? Issachar, c'est le salaire. Et c'est aussi la location. Sauf qu'il y a deux signes. Vous savez qu'il y a deux signes dans Issachar. Un qu'on prononce, un qu'on prononce pas. D'accord ? Celui qu'on prononce, c'est celui qu'on a loué Yaakov. On a loué Yaakov. Donc c'est pas beau. D'accord ? Et le deuxième, c'est le Srar qu'elle a eu de s'accoupler avec lui, qu'elle a eu Issachar. D'accord ? Elle a payé ça. Elle a payé ça. Donc elle a un mérite. Mais d'un autre côté, elle a été louée par Rachel. D'accord ? Donc il y a pas méritant. Donc il y a un signe qu'on prononce. Il y a deux signes. Un qu'on prononce et un qu'on prononce pas. C'est pour cette raison-là qu'il y a deux signes dans Issachar. D'accord ? En tous les cas, qu'est-ce qui a fait venir la Neshama d'Issachar au monde ? L'âne qui a bré. D'accord ?
C'est écrit ?
Oui, c'est marqué dans Midrash, ça. Ah oui. L'âne qui a bré, elle est sortie, elle a appelé Yaakov, elle a eu Issachar. C'est pour ça qu'Issachar, on l'a appelé Issachar Hamor Garem. On l'a appelé Hamor. Et il a eu cette Midala. Hein ?
Son symbole.
Ses symboles, c'est Hamor. Alors, c'est pas flatteur. Tu dis, voilà, c'est l'âne, là. Voilà, Issachar. L'âne, lui, le Lomet Torah, le Tamid Chacham, c'était Issachar à cette époque-là. D'accord ? Eh bien, il était représenté par un âne. En vérité, l'âne ici dont on parle. C'est l'âne qui revient et qui se remet à travailler. C'est celui qui a dépassé l'âne. D'accord ? Rovetz ben Amishpetayim, qui continuait, il faisait une petite pause, et il recommençait, et il étudiait. Vayar Menucha Kitov, comment c'est marqué ? Il a vu que la Menucha, elle est bonne, elle est agréable, le repos, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de profiter de ça, Vayet Shichmo Lisbol. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tendu son épaule pour continuer. Vaï le Mas Oved pour continuer à travailler. Vous voyez ? Donc c'est ça, il a surmonté, Issachar, il a surmonté cette Mida de Hatzlout. Vous comprenez ? Tout ça pour vous dire quoi ? Maintenant, venons-en au troisième. On a vu Abraham, il est monté sur l'âne, il a surmonté cette Mida de Hatzlout. On a vu Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté sur l'âne, lui, il a fait monter sa femme, et c'est elle qui a su réagir avec empressement. D'accord ? Et ensuite, nous voyons Mashiach. Alors, quel rapport avec le Mashiach et l'âne ? Très simple. Vous savez, vous connaissez l'histoire que Rabbi Shua ben Levi, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui a demandé, mais quand est-ce qu'il vient ? Rabbi Shua ben Levi a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a demandé, mais quand est-ce que va venir le Mashiach ? Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Hayom, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. D'accord ? Il a attendu de passer la journée entière. Le lendemain, il a vu Yonavé, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai attendu toute la journée, il n'est pas venu. Il a dit, non, tu n'as pas compris. Ayom imtishma bekoli. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué, aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, alors je te délivrerai, etc., etc. Akjvoukou, il t'enverra tous tes bras côtés. Ayom imtishma bekoli. Évidemment, c'est pour la suite du pasouk, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, il y a Yonavé, c'est foutu de lui. Il lui cache la moitié du pasouk, il lui dit Ayom. Mais qui lui dit simplement Imtishmeu Bekoli, simplement. Pourquoi lui dit Ayom ? Pourquoi lui dit Ayom ? Que signifie le mot Ayom, Rabotai ? Vous savez qu'est-ce que ça signifie le mot Ayom ? C'est Ayom, pas demain. c'est l'empressement. Le mot hayom, c'est l'empressement. À chaque fois que c'est marqué, regardez comment c'est. Asher anochi metsave cha hayom. Asher anochi metsave etrem hayom. Vinatati et abracha, et aklala et abracha hayom. D'accord, c'est marqué hayom. Et à chaque fois, des dizaines de fois peut-être dans la Torah, quand on nous parle qu'il nous a ordonné les mitzvot, d'accord, c'est marqué hayom aujourd'hui. Pourquoi c'est marqué hayom aujourd'hui? Parce que justement hayom, ça veut dire aujourd'hui et pas demain. C'est aujourd'hui, pas demain que tu fais la mitzvah. C'est pour montrer l'empressement que l'homme il doit avoir dans les mitzvot. C'est pour ça qu'il lui a dit non seulement le Mashiach va venir si vous faites les mitzvot, mais pas n'importe de quelle manière. Si vous les faites dans la dimension de hayom, c'est pas demain. Attends demain, demain, il y a le temps demain, attends. Non, c'est hayom. Le mot hayom, c'est hayom la asotam. Machar, c'est pas la mitzvah. Machar, c'est pour recevoir le salaire. Mais hayom, toute cette vie, chaque jour de notre vie qu'on vit, ça doit être aujourd'hui. Hayom, d'accord? Contrairement à Machar, parce que vous savez, lorsque Israël est sorti d'Égypte, d'accord? Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, qui s'est attaqué à Israël? Amalek, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet d'Amalek? Il a dit, c'est Ilachem, que je vous dis à Yoshua, Bechar lanu anashim, choisis-nous des bons, des tzadikim, des bons hommes, d'accord? Et c'est Ilachem ba Amalek, va, sort en guerre contre eux, Amalek, Machar, demain. Pourquoi il dit Machar? Il aurait dit, si c'était le lendemain, il aurait dit, c'est Machar, Ilachem ba Amalek, sort demain, faire la guerre. Non, c'est Ilachem ba Amalek, Machar. Pourquoi c'est marqué Machar? Farshim m'explique, c'est marqué Machar dans le sens que la clipa de Amalek, Amalek justement, ils ont vu Israël sortir d'Égypte. Ça veut dire l'empressement qu'ils ont eu. Et Amalek, c'est quoi? Vous savez que c'est Asher, Kacha, Baderer, celui qui t'a refroidi. C'est celui qui refroidit l'homme dans les mitzvot. C'est celui qui refroidit l'homme dans les mitzvot. Ce Amalek qui représente lui le Machar sort tout de suite contre lui. Amalek qui représente, c'est pour ça qu'il est marqué Machar après Amalek. Amalek qui représente le Machar, c'est-à-dire celui qui représente la klipa de Hatzlout, d'accord, qui dit attends demain, pas tout de suite, attends demain. Ça, c'est se refroidir, tu as le temps de te refroidir. Si tu attends demain, tu ne la feras pas. D'accord? Comme celui qui dit je vais me coucher tôt, ça je me lève tôt demain matin et j'étudie. Il se couche tôt, il se lève tard, celui-là. À coup sûr. À coup sûr. À coup sûr. D'accord? D'ailleurs, regardez dans le Shulchan Aruch, donne-moi Chelek Aleph. Vous allez rigoler, mais donne-moi Chelek Aleph. Dans Chelek Aleph. Première halakha. Oui, Kari, tout à fait. Et pas Kechamor. Kari, regardez ce qu'il est dit. C'est intéressant parce que il est dit comme ça dans la première halakha. Il a dit, Mkhaber, il dit, il gaber Kari la amod baboker la voda de Boro. D'accord? Il doit se lever tôt le matin comme un lion pour la voda de son créateur. Shiyehu meorer tachar, que lui, il réveille le shachar. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rama là-dessus? Il nous rajoute là-dessus, on parle du matin, on parle bien du matin, d'accord? Il y a Bakari, la mot baboker, la vodat boro, comme ça nous dit le Mkhaber. Le Rama rajoute là-dessus et il dit Gam, il dit Ubeshochbo al Mishkavo yeda lifnemi u shochev. Quand il va dormir, qu'il sache devant qui il va dormir. Maintenant, on ne parle pas du sommeil, on ne parle pas du soir, on parle du matin. Ici, le Mkhaber, il commence par quoi? Par le lever du matin, d'accord? Se lever du bon pied. Bon pied, bon œil, d'accord? Se lever le matin, bien comme il faut. Ça doit être comme un hari, ça soit, etc. Et il nous parle du matin. Vient le Rama et nous dit, et quand il va dormir, il faut qu'il sache devant qui il aille dormir. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Rama, ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, là? On ne sait pas devant qui on va dormir. On va dormir, on va dans son lit, on va dormir devant Dieu. Bien sûr, on fait tout devant Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Une chose qu'on ne fait pas devant Dieu. Pourquoi est-ce que c'est marqué « Ubeshorbo al-Mishkavo yeda lifnemi ushoreb » qu'il sache devant qui il dort. En réalité, le Rama, il dit une chose simple. Il dit « Si tu veux te lever le matin tôt, il faut que quand tu ailles te dormir, il ne faut pas que tu ailles t'endormir. Il ne faut pas que tu ailles directement du travail au lit ou alors de la table au lit. » Ou alors du journal au lit, d'accord? Ou alors du dernier film au lit. Ou alors dernière hadashot, dernière nouvelle au lit. Il te dit, quand tu vas, tu dois sortir, tu dois aller te coucher avec la tête pleine de Yediat Hashem. C'est quoi les Idiyat Hashem, Limud HaTorah? Ça veut dire le Rama, il dit, si tu veux te lever tôt, étudie tard. Tout à fait le contraire, c'est ça.
Il est encore tôt.
Si, ouais, tout à fait. Alors, le temps, la nuit n'est pas finie. Si tu veux te lever tôt, étudie tard. Parce que je vous dis à coup sûr, les gens qui me disent, moi, je me couche très tôt, ça, je me lève tôt, je suis sûr que cela, il se lève juste pour la tefila, et encore.
C'est pour ça qu'on fait le schéma à la
mi-temps, non ? Non, le schéma à la mi-temps.
Non, oui, c'est ma condition.
Aussi, peut-être, oui, mais c'est ça. Traiter le schéma à la mi-temps, c'est pour... C'est parce que ça protège l'homme pendant un moment où il est inconscient. Créer le schéma, c'est aussi une protection. D'accord ? Oui, c'est pour cela que... Bon, comment on se réveille tous les matins, c'est bien. Mais au cas où ce n'est pas le cas, Barminan, au moins on aura quitté ce monde avec le créer le schéma. C'est très important de faire créer le schéma avant de dormir. D'accord ? Créer le schéma à la mita, d'abord ça protège Minamazikim. Protège Minamazikim. Bien sûr. Donc, vous voyez ce qu'il dit le Rama. Il dit, donc, en fin de compte, c'est si tu veux te lever tôt, hein, il gaber kari, alors sache étudier tard le soir, tu t'es levé. D'ailleurs, ça donne la havata Torah et on a envie de se lever le matin. Par expérience, je peux vous dire que ça marche à tous les coups. Étudiez bien le soir, un peu tard, quand c'est calme. D'ailleurs, vous savez que le limouda Torah, le jour ou la nuit, celui qui a le plus de mérite, c'est le limouda Torah de la nuit. D'accord ? C'est marqué dans Michelet. Sheva, Sava Yalin, Loi Pakedra. Comme ça dit Shlomo Ameler. Sava Yalin, Loi Pakedra. Quelqu'un qui va se coucher bien rassasié, et on ne lui annoncera pas de mal. On ne lui annoncera pas de mauvais choses. Quoi, ça veut dire quelqu'un qui mange bien avant de dormir, bien rassasié ? Non. La Gemara se dit qu'il s'est Masbia Atzmo Midivre Torah, L'Ome Vasrin Lo Besorot Raot. Quelqu'un qui va dormir avec, qui est rassasié d'études de Torah, celui-là, jamais, on lui annoncera de mauvaises nouvelles. Jamais. D'accord ? Pardon ? Bien sûr. Ah, tu vois. Ah, tu vois, donc c'est tout à fait, encore plus au mois de Shabbat. Alors, en tous les cas, sachez que le limoud de la nuit, il a beaucoup plus de valeur que le limoud de la journée. D'accord ? T'achètes rocher, vi'ilayla, parce qu'il fait encore plus de rocher. Plus de rocher. Alors, si on va dormir, le rocher, il est encore beaucoup plus fort. D'accord ? Alors que lorsqu'on étudie Torah, on est dans le Or Torah. En tous les cas, revenons au Mashiach. D'accord ? Ce qui se passe avec le Mashiach, c'est que lui-même, on nous dit qu'il va venir sur un Chamor. Mais alors, Ani Verochev al Chamor. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, en réalité ? Qu'est-ce que ça veut dire, Ani Verochev al Chamor ? Je vais vous expliquer. Friedman explique la manière suivante. Et il dit que ce Mashiach, quand il va venir, d'accord ? Il viendra uniquement, comme on vient de dire, Hayom. C'est-à-dire, nous apprendre, Amisraël va comprendre ce que c'est la Mida de Hayom, ce que c'est la dimension de Hayom, de l'empressement, de l'amour. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite. C'est pas demain, pas après-demain. D'accord ? Donc dans ce cas-là, on mérite Mashiach. Mais vous savez que le Mashiach, il va venir ou bien en son temps, ou bien avant son temps. Vous savez ça. C'est marqué dans le pasouk, Be'ito Arishena. Alors ça ne plus rien comprendre. Be'ito Arishena. En son temps, je le devancerai. Alors la Gemara, elle demande, si c'est en son temps, c'est pas devancé. D'accord ? C'est peut-être encore dans son temps. Je ne sais pas. Mais c'est pas devancé. Oui ? Alors qu'est-ce que ça veut dire, Be'ito Arishena ? La Gemara répond simplement. Be'ito, Lozachu, Be'ito. S'il ne mérite pas, alors ce sera Be'ito. Zahu Arishena. Mais si jamais il mérite, je le devance. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire je devance ? Je tarde pas. Donc tout dépend comment Israël va être. Si Israël n'ont pas compris cette mida de Zrizout, c'est-à-dire ne font pas les mitzvot de Zrizout, ils font peut-être, eh bien ce n'est pas encore le temps. On ne peut pas faire devancer le Mashiach comme ça. Et quand le Mashiach, il vient, quand l'Ozachou, c'est-à-dire Ani Verochev al-Khamor, il vient pauvre en chevauchant sur le Khamor. Qu'est-ce que ça veut dire venir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Venir pauvre en chevauchant le Khamor, ça veut dire en n'ayant pas eu, il vient dans un d'or qui n'a pas su, qui n'a pas cette richesse-là, intellectuelle ou cette richesse du cœur, d'accord ? De pratiquer les mitzvot avec amour et empressement. Ani Verochev al-Khamor. Pauvre sur son chamor, pas riche sur son chamor. Comprenez ? Qu'est-ce que ça veut dire pauvre sur son chamor ? Ça veut dire être sur un chamor, représenter la Hatzlout sans l'avoir dominé, cette Hatzlout. Ça, c'est l'Ozacha. Ça, c'est l'Ozacha. Dans le cas où ils n'ont pas mérité, d'accord ? Comment viendra le Mashiach ? Il viendra sur un chamor. S'ils ont mérité, c'est marqué, il viendra comme Anané Shamaïm, comme les éclairs, comme un éclair, il viendra. D'accord ? Donc, l'éclair, c'est quelque chose qui devance la pluie, qui devance la bracha, qui devance le tonnerre, d'accord ? C'est-à-dire la Géoula. Et donc, être rapide comme un éclair, on dit. Quelqu'un, un éclair, on appelle quelqu'un qui est rapide comme une flèche, on appelle, c'est un éclair, d'accord ? Et la rapidité, on appelle l'éclair. Donc, où ça va être l'éclair, où ça va être le chamor ? Un pauvre sur un chamor. Ces deux images que la Torah nous donne, d'accord ? Où le Mashiach viendra comme un éclair, où viendra pauvre sur un chamor, ce sont justement, ou bien Am Israël sera zoré, ça veut dire ils feront les mitzvot avec empressement et amour, c'est l'éclair, ou bien ils feront la Torah, mais parce qu'ils ont 613 problèmes, comme on a dit, à régler, et donc ils sont bien contraints de les faire, et dans ce cas-là, le Mashiach viendra quand même, en son temps, pas avant. Vous voyez, si on est empressé pour les mitzvot, Akadosh Baruch Hu est empressé pour nous faire venir le Mashiach. Mida keneged mida. Donc tout dépend de ça. Si on les mitzvot, on les fait, ben atzlut, alors c'est un pauvre qui chevauche un chamor. C'est quelqu'un qui n'a pas su s'enrichir de cette mida-là, qui est resté pauvre et qui chevauche le chamor. Donc ce sera seulement berito en son temps et pas avant. Voilà, il n'y a pas plus lent qu'un âne, d'accord ? Donc c'est bien ça, c'est la atzlut. Vous comprenez ? Donc voilà. Donc même les deux possibilités. Les deux dates qui nous sont données, les deux possibilités que le Mashiach viendra, que ce soit Be'ito, que ce soit avant son temps ou en son temps, tout dépend justement, c'est ça. On nous dit où ça sera comme un éclair, d'accord ? Donc, avec une rapidité, c'est celui qui est rapide dans la Torah et les mitzvot, qui aime donc, et donc c'est comme un éclair, c'est rapide, et donc je vous trouve devance la date du Mashiach, ou bien ça sera un moment où Israël sera lent, sera Atzlan, et dans ce cas-là, le Mashiach ne viendra que en son temps, et pas devancé. Et pas avec Zrizout, pas devancé. Vous comprenez ? C'est ça le Haniké Rochev Al-Chamor. Voilà donc Rabotai, quand je vous ai dit le Mashiach, ce serait pour aujourd'hui, pour demain. Ben ça dépend de nous. D'accord ? Il peut venir encore aujourd'hui. Seulement, Ayom Im Bekolo Tishmaou, si aujourd'hui vous écoutez. Donc ce shiur a été fait, les Refouach Lema, de Yosef Ben Shetrit. Et Leilou Nishmat.
Merci beaucoup. Esther
Bat Nissim Obedia Weber. Esther Bat Nissim Obedia Weber. De Mesoudi. Baracha Mesoudi Bat Rachel. Refouach Lema. Souka Rachel Bat Lea. Bat Rachel. Myriam. Aïsaïcha Bat Raymond. Voilà, à Bretagne. Pardon ?
Merci pour continuer à étudier.
C'est ouvert, le Beit HaMidrash restera ouvert. Mais on peut, disons que tard le soir, c'est bien d'étudier à la maison, parce que c'est...